podcast. Matin Première, question publique.
On va retrouver notre invité, Benoît Friedman. Nous commentons ce matin le fonctionnement de la justice américaine. Avant les questions d'auditeurs, qui sont nombreuses, le résumé de la première interview, Bertrand Hen.
Oui, la défense a pu proposer d'autres arguments. La défense de Dominique Strauss-Kahn, ce qui a permis la libération sous caution, à l'inverse de ce qui s'était passé lundi, avec ici des mesures de prévention exceptionnelles. Le grand jury a aussi décidé hier de la mise en accusation formelle. Et Benoît Friedman nous rappelle que le grand jury d'accusation, c'est la mise en accusation, c'est la chose du procureur. Il n'y a pas de juge présent et l'avocat n'y a que très peu de droits. Dominique Strauss-Kahn va maintenant être déféré devant le tribunal pénal de New York. Une bataille va s'engager entre le procureur et les avocats sur les preuves admissibles. C'est plus simple de le dire comme ça. Et d'ici au procès, une négociation peut avoir lieu avec le procureur, mais Benoît Friedman évoque l'idée que le procureur parle de 5 ans minimum de prison de ferme. Une transaction civile avec la victime peut aussi intervenir. Et puis sur la polémique du traitement de DSK, les images notamment de l'homme menotté, c'est une tradition de la police ici, et il souligne bien la police qui ne l'honore pas. Au niveau de la justice, le procureur est élu, il doit se faire réélire. Cherche-t-il donc de la notoriété avec cette affaire, à se faire de la pub? Oui, mais ce n'est pas pour ça que ça les pousse à faire mal leur travail. Ça les pousse peut-être aussi à le faire bien. Le procureur est obligé de montrer à ses électeurs qu'il ne fait preuve d'aucune faiblesse face à un homme puissant. Mais à partir de maintenant, avec ses moyens, reconnaît Benoît Friedman, Dominique Strauss-Kahn va pouvoir faire jouer à fond le système américain, qui pour lui est un système favorable à la défense.
Mais on va continuer notre investigation dans ce système judiciaire américain. Voici une première question.
Bonjour monsieur, je suis interpellée par le fait qu'on dise que c'est une justice même pour tout le monde aux États-Unis, car la libération sous caution en demandant 1 million en cash avec 5 millions de dollars de réserve me semble absolument contraire à une justice égalitaire. Merci de votre réponse.
Benoît Friedman.
Oui. Je vais rappeler que c'est une question qui vient très souvent. Beaucoup de gens nous disent, mais quand on peut payer une caution comme ça, beaucoup de gens n'auraient pas pu se le permettre. Et donc, voilà, c'est pas une justice très égalitaire.
Alors, sur la caution est en pratique déterminée par les moyens de l'accusé. Pourquoi ? Parce qu'il y a un but qui est simplement que la personne se présente au procès. Vous avez plusieurs moyens. Le plus simple, c'est de le mettre en prison, en détention préventive. Et puis, si vous ne le faites pas, eh bien, alors vous lui demandez une somme d'argent et une somme qui doit être suffisamment dissuasive. Alors, on a dit, mais si, j'entends aussi, si on n'a pas d'argent, comment on fait? Alors, si on n'a pas d'argent, on s'adresse à des sociétés spécialisées, ce que va d'ailleurs faire Dominique Strauss-Kahn pour les 5 millions supplémentaires, hein, qui va alors, cette société spécialisée va avancer les fonds et c'est elle qui va garantir comme une sorte de compagnie d'assurance, avec chasseur de primes, avec chasseur de tête le cas échéant, que vous allez bien vous présenter au jour du procès. Maintenant, plus généralement, la question de la justice égalitaire, non, ça n'est pas une justice égalitaire au sens où, selon vos moyens, eh bien, vous pouvez effectivement payer des équipes d'avocats plus ou moins talentueuses, importantes, etc. Et c'est pour ça que la très très grande majorité, plus de 95% des affaires, va se régler par un plea bargaining. Et une des raisons des accusés d'accepter ce marché, eh bien, c'est aussi de ne pas ruiner leur famille en frais d'avocat, quitte parfois à plaider coupable pour des gens qui, en réalité, sont innocents.
Une petite précision, donc il est libéré sous caution, une caution $1 million et d'un dépôt de garantie de $5 millions. C'est quoi la différence entre les deux?
Donc le million, il est en cash, et pour les 5 autres millions, c'est ce qu'on appelle des bonds, hein, donc ce sont des titres, et alors cela passe par un intermédiaire qui va émettre cela, mettre cela en garantie, donc c'est un élément supplémentaire. C'est du jamais vu, sauf dans des très grosses affaires financières.
Somme qu'il récupérera, bien sûr, c'est le principe d'une caution.
Ah, il la récupère s'il se présente bien au procès, s'il ne se soustrait pas aux poursuites, au procès et, le cas échéant, la condamnation.
Bertrand Hen.
Ah oui, ben je peux. Il y a beaucoup de commentaires qui sur l'opinion publique. Je suis choqué par certains propos de votre invité, nous dit cette auditrice. La publicité des débats gage de démocratie sous l'œil de l'opinion publique. Mon œil, nous dit-elle, en tant que professeur de droit, vous savez bien que l'opinion publique n'est pas toujours du côté de la justice. Quel pays aurait aboli la peine de mort si on avait suivi l'opinion publique? Voilà ce que dit l'auditrice.
Absolument, c'est pas l'opinion au sens des sondages qui va juger Dominique Strauss-Kahn. Ce que je dis, ce n'est pas une justice de l'opinion, ce n'est pas une justice populaire de la foule, c'est une justice sous le regard de l'opinion. C'est ça qui change les choses. Vous savez que n'importe quelle personne ne se comporte pas de la même manière dans le secret de sa chambre d'hôtel ou de n'importe quel endroit et quand il se sait sous le regard de l'opinion publique. Eh bien ici, la justice, la défense, l'accusation, le juge lui-même sait qu'il est, ils sont regardés dans leurs actes, ce qui effectivement aboutit à modifier la nature de leur comportement pour le meilleur ou pour le moins bon.
Benoît Friedman est notre invité ce matin, 8h42, on prend une nouvelle question.
Je remarque ici, c'est un Français qui est accusé aux États-Unis, on en fait tout un point en disant voilà, ça se passe comme ceci, ça se passe comme cela. Quand on voit un Michael Jackson qui a été accusé, on a fait la même chose. Aux journaux télévisés en Europe, que ce soit en France, en Belgique ou un peu partout, on a montré les images sans se poser de questions. Tiens, pourquoi est-ce qu'on montre ceci, pourquoi est-ce qu'on montre cela? Et ici, parce que c'est un Français qui serait peut-être candidat à la présidence française, on trouve que c'est pas normal. Merci, au revoir.
C'est vrai, Benoît Friedman, que les Français semblent prendre ce qui se passe là-bas comme une espèce de vengeance des États-Unis à l'égard de la France. Ils tiennent un Français, c'est ce qu'on a entendu comme commentaire.
Oui, absolument, alors que monsieur l'auditeur a raison de souligner que ce type de traitement qui est réservé à Dominique Strauss-Kahn, c'est un traitement qui est réservé aux puissants, aux notables, aux grands formats. Et donc, il se serait agi d'un grand homme politique américain ou d'un grand chanteur sportif, etc. Et ce genre de cas existe, ce n'est pas une hypothèse. Il y en a, et il y en a plusieurs. Et ça, ils auraient été traités de la même manière. Mais c'est vrai que, vu de loin, vu d'Europe, et encore plus de France pour les Français, ils se sentent personnellement attaqués. Maintenant, dans les circonstances contingentes du procès, le fait que M. Strauss-Kahn soit un grand banquier à la tête d'une organisation internationale et soit un Français n'est pas forcément un avantage si on doit aller jusque au jugement par un jury.
C'est là toute la question. Est-ce qu'il y a une forme d'exemple dans ce qui se passe aux États-Unis? La justice américaine veut faire un exemple. Et dans ce cas-là, le traitement de Dominique Strauss-Kahn n'est pas égalitaire face à d'autres justiciables américains ou d'autres?
Alors, le procureur, effectivement, a certainement cette idée d'exemple. L'affaire est exemplaire. D'abord parce que c'est tout le travail du bureau, ce sont des centaines de cas de crimes sexuels que ce Special Victim Unit, etc., poursuit chaque année. Mais cette affaire-là, elle va focaliser l'attention du public et donc ils jouent d'une certaine manière leur image de marque là-dessus. En même temps, comme je vous l'ai dit, il est essentiel de montrer qu'ils ne sont pas moins vigilants parce que cet homme est puissant, ce qui peut alors, du coup, faire pencher un peu la balance de l'autre côté. On l'a vu au niveau de la détention préventive, quand, au-delà des propositions très très importantes de la défense, l'accusation, hein, vous avez entendu que la défense l'a dit hier, l'accusation a dit non, non, non et non, nous voulons qu'il reste en prison, ce qui n'est ni le droit, ni la politique public à New York.
8h46.
En cas de condamnation, est-il envisageable que DSK purge une partie de sa peine en France? Merci.
La question en courte et claire. on a eu des exemples, hein, pas nécessairement avec les États-Unis. Bertrand Cantat, par exemple, hein, qui a purgé la fin de sa peine en France.
Absolument. Alors, je ne peux pas répondre précisément à cette question. On souligne à New York qu'il n'y a pas d'accord d'extradition avec la France, donc il n'y a peut-être pas de convention d'entraide judiciaire, etc. Il y a aussi le fait, qui a joué beaucoup dans l'audience de lundi, à mon avis, qu'il y a l'affaire Polanski. L'affaire Polanski qui joue, d'après ce qu'on m'a dit, un rôle très important au niveau du public et des professionnels américains.
Il y a une dimension de vengeance
C'est pas une dimension de vengeance, mais c'est le fait de pas deux fois. D'ailleurs, on a vu le procureur décrire un Dominique Strauss-Kahn qui se promènerait en France, qui d'une certaine manière pourrait parader en France en se soustrayant à la justice américaine. C'est quelque chose qui est extrêmement mal vécu aux États-Unis et aussi à New York.
Bertrand, d'autres commentaires sur notre site internet?
Oui, il y a plusieurs commentaires très accusateurs sur la justice américaine. C'est une justice injuste, qui cite Troy Davis ou d'autres. Et de différence entre les gens qui sont soumis au système judiciaire américain, une justice qui condamne plus facilement les Noirs, etc. Je voudrais, sur l'incompréhension entre les deux systèmes, vous me disiez, hors antenne, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux philosophies derrière. Une philosophie plutôt catholique ici en Europe, une philosophie plus protestante. On se comprend pas tellement entre les deux.
Oui, il y a une différence des cultures judiciaires qui est très importante et qui se traduit à la fois par la procédure, par exemple cette idée qu'à tout moment l'affaire peut s'arrêter par un accord. Ça, c'est quelque chose qui est inenvisageable pour nous. Même si la personne avoue, chez nous, il y aura un procès dans lequel on va tout exhiber, par exemple. Aussi, autre aspect, cet aspect du cauchemar américain qu'a vécu Dominique Strauss-Kahn, qui est de passer en une demi-heure du statut d'un des hommes les plus puissants de la planète, favori de l'élection présidentielle française, à un accusé dans des conditions extrêmement dures. C'est le thème de la chute, cher aux protestants.
Elle peut être brutale. Il y a un rêve américain et un cauchemar américain.
Il y a un cauchemar américain qui est le pendant du rêve américain, qui fait qu'il n'y a pas de seconde chance, qu'il n'y a pas de droit à l'erreur, et que la chute peut arriver de manière extrêmement brutale et vous amener d'autant plus bas que vous avez été haut.
8h48, on prend une dernière question.
Bonjour, je ne vais pas parler de justice, je vais seulement parler de M. Troy Davis, qui en Amérique a été condamné pour meurtre alors qu'il n'y avait pas de preuves. Il était condamné sur base de témoignages de 7 personnes dont 6 se sont rétractées. Moi, ça me révolte. Bonne journée.
Benoît Friedman, plus un commentaire qu'une question.
Est-ce que le système américain produit de l'erreur judiciaire? Oui.
Il y en a eu pas mal.
Il y en a eu pas mal. Si on prend, ne fût-ce qu'elle est condamnée à mort, il y a plus de 20 erreurs judiciaires dans des cas où il n'est pas admissible que l'on se trompe. D'ailleurs, il n'est jamais admissible que l'on se trompe en matière criminelle. Donc, c'est très loin d'être une justice parfaite en raison de différents mécanismes. Il faut dire, la nôtre ne l'est pas non plus. Je crois que la justice ne peut pas l'être. Et pourtant, elle devrait l'être parce que c'est de la vie des gens qu'il s'agit. La justice est une exigence. Ça n'est pas une science, c'est une vertu, c'est une exigence qu'il faut réclamer et cultiver.
Benoît Friedman était notre invité ce matin pour nous commenter le fonctionnement du système judiciaire américain. Merci pour ses réponses aux questions d'auditeurs.